Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Headline edition will bring you special reports and interviews in a moment.
Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Nous avons rendez-vous aujourd'hui encore avec Daniel Robin, qui est ufologue, mais bien plus que cela encore. Il est, on peut le dire, chercheur pluridirectionnel. Les expériences de mort imminente, la physique de l'information, les objets volants non identifiés, les états modifiés de conscience, on va dire tous les sujets dont la science ne voulait pas il y a encore quelques années et auxquels elle commence à prêter un début d'attention grâce au courage de quelques chercheurs, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Nous avons eu ici à Radio Grand Ciel le plaisir et l'avantage de vous en présenter quelques-uns, je pense précisément au philosophe des sciences Philippe Solal. J'espère aussi pouvoir interroger prochainement le physicien français Philippe Guillemot, qui est un des spécialistes de la théorie de la double causalité. Ce sont Daniel Robin, deux personnes avec qui vous avez l'habitude de travailler, et ce travail, vous allez bientôt le porter à la connaissance du grand public avec la sortie d'un livre collectif sur les objets volants non identifiés. On va peut-être commencer par cet ouvrage qui devrait faire du bruit compte tenu de la qualité de ses auteurs. Daniel, de quoi est-il question dans ce livre ?
Alors, ce livre, bon, est un projet très ambitieux puisque sous un même livre, on va regrouper les travaux de sept chercheurs. Bon, alors je peux les énumérer, hein. Fabrice Bonvin, qui est psychologue et essayiste, hein, qui a déjà écrit deux ouvrages sur le phénomène OVNI, OVNI les agents du changement et OVNI le secret des secrets. Il y a Philippe Guillemot, bon, que tout le monde connaît, enfin, j'espère, qui est ingénieur de l'école centrale et ingénieur de recherche au CNRS. C'est un spécialiste de l'étude des systèmes complexes et chaotiques. Il est le père de la théorie de la double causalité et surtout l'auteur d'un livre qui a fait quand même pas mal de bruit, La route du temps. Ensuite, on a Jean-Jacques Jaillat, qui est psychologue, diplômé de la Sorbonne, qui s'intéresse au sujet OVNI, sous l'angle de la psychologie jungienne. On a Romuald Le Terrier, qui est un chercheur ethnobotanique, spécialiste du chamanisme amazonien. On a, bon, moi-même, disons, présidente de l'association OVNI Investigation, enquêteur de terrain, qui est spécialiste du recueil de témoignages. On a Philippe Solal, qui est donc professeur agrégé de philosophie à l'INSA, philosophe des sciences. Éric Zurer, qui est essayiste, qui a écrit un livre très intéressant sur les RR3, rencontres du troisième type. Et puis on a aussi, dans cet ouvrage, deux personnes qui ont été témoins du phénomène OVNI. Alors quand je dis témoins, c'est vraiment des témoins rapprochés, puisque ces personnes ont aussi été victimes d'enlèvement. Voilà. Alors elles sont désignées dans l'ouvrage par leur prénom, Laurence et Valérie. Alors, pourquoi ce livre ? En fait, ce livre part d'un constat, c'est que bon, toutes les théories explicatives du phénomène OVNI jusqu'à présent n'ont pas été capables de rendre compte de ce qu'on observait. Donc il fallait impérativement, disons, mettre sur pied une nouvelle façon d'expliquer le phénomène OVNI. Et cette nouvelle façon d'expliquer le phénomène OVNI repose aussi sur une nouvelle vision de la réalité. Voilà. C'est le principe de base de cet ouvrage. Et surtout mettre l'accent sur l'interconnexion entre l'observation du phénomène et la conscience humaine. C'est vraiment un des fondements de cet ouvrage.
Alors, comment est-ce que vous êtes rencontrés tous ? Comment un ethnobotaniste rencontre un physicien de la formation, qui rencontre un ufologue, qui rencontre un philosophe des sciences ?
Oui, alors c'est vrai que c'est nous-mêmes, nous sommes un petit peu surpris par le fait que on ait pu réunir des personnes d'horizons intellectuels aussi divers, étudiant des domaines aussi différents les uns des autres. Alors c'est une sacrée chance en fait, puisque chacun apporte avec lui sa spécialité et ses connaissances dans son domaine. Et en fait, on s'est aperçu qu'on se complétait très bien. Et que l'ouvrage, finalement, va se dérouler en une espèce de suite logique, en partant des témoins, donc des deux témoins, Laurence et Valérie, en passant ensuite par moi, qui est un enquêteur de terrain, donc qui va expliquer ce qui se passe quand les témoins témoignent de ce qu'ils ont observé. Et ensuite, alors, on va aller vers des domaines un petit peu plus spéculatifs, jusqu'à Philippe Guillemant et Philippe Solal, qui vont vraiment essayer de théoriser tout ça et de construire un édifice théorique harmonieux à partir de tous ces témoignages et puis de toutes ces théories. Alors c'est vrai qu'on a été un petit peu surpris, mais c'est surtout grâce, je vais dire, à Fabrice Bonvin qui a lancé cette initiative. Et puis, de proche en proche, moi je connaissais Philippe Guillemant, et puis, Philippe Guillemant connaissait Philippe Solal, et ainsi de suite, et connaissait Romuald Le Terrier. On s'est dit que, tous ensemble, ces sept auteurs pourraient faire vraiment un travail novateur sur ce sujet, d'autant plus qu'ils sont à la fois, des gens spécialistes dans un domaine particulier, mais en même temps qui s'intéressent de près à la question des ovnis et à la question de la conscience. Alors ça, c'était très important. Il fallait quand même que ça soit des gens qui soient en harmonie, on va dire, sur l'essentiel, hein, sur le fond. On ne pouvait pas non plus intégrer des ufologues qui auraient une vision plutôt tôt les boulons du phénomène ovni. Donc ça pouvait pas cadrer. Donc là, vraiment, c'était une grande chance de pouvoir travailler ensemble. Et donc, on peut pas présumer de l'avenir, mais je pense que cet ouvrage fera date dans l'histoire de l'ufologie.
Voilà. Ouais. Est-ce qu'il permettra aussi à l'ufologie de sortir un peu du quasi-anonymat dans lequel il végète depuis tellement d'années? Est-ce qu'il peut intéresser la communauté scientifique?
Oui, alors, ça, c'est encore une autre paire de manches, je dirais. On va proposer un modèle d'explication du phénomène qui est assez nouveau. Alors, assez nouveau, qui avait déjà été pressenti par Jacques Vallée, dans son livre Le Collège Invisible, qui a été publié en 75. Donc, c'est déjà ancien. Mais Jacques Vallée a été un visionnaire dans beaucoup de domaines, et notamment dans le domaine de l'ufologie. Et surtout, il a compris dès le départ, et ça c'était un des rares qu'il a vraiment compris, c'est qu'il y a un lien intrinsèque entre le phénomène OVNI et la psyché humaine, on va dire, hein, entre le phénomène et la conscience. Alors c'est vrai que ces rapports entre ces deux réalités n'étaient pas bien explicités, mais Jacques Vallée a eu cette intuition remarquable. Il l'a écrit dans son livre Le Collège Invisible. Donc c'est vrai que on part pas de rien, on va dire. Par contre, est-ce que ça va révolutionner est-ce que ça va permettre aux scientifiques de s'intéresser au phénomène OVNI? Je l'espère de tout cœur. Vu la qualité des auteurs qui participent à cet ouvrage, Philippe Guillemant, c'est vraiment un scientifique de très haut niveau. Vraiment un physicien reconnu par ses pairs, qui a fait des travaux absolument remarquables. Et donc je pense que, alors peut-être pas tous, mais qu'un certain nombre de chercheurs vont effectivement commencer à se poser des questions à ce sujet. Et alors c'est vrai que les choses sont... On ne bouge pas les paradigmes comme ça, hein, parce que là il s'agit vraiment d'un changement de paradigme. Hein, donc, mais nous on s'inscrit dans un courant beaucoup plus vaste. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de physiciens, de chercheurs qui commencent à se poser des questions sur la nature de la réalité. Et de plus en plus, ces chercheurs pensent comme nous, c'est-à-dire que la réalité, c'est pas forcément ce qu'on croit. Voilà.
Alors, je vous pose la question, puis après, j'ai d'autres questions en réserve. Mais alors donc,
bien sûr.
Selon vous, selon Philippe Guillemant, selon Philippe Solal, à quoi ressemble la réalité? C'est quoi le réel?
Ah, Alors ça, c'est une question qui, tous les philosophes, en fait, c'est la question philosophique de base qui a occupé tous les philosophes depuis Platon. Depuis Platon, Aristote, et jusqu'à aujourd'hui. Alors bon, avant c'était les philosophes, maintenant c'est plutôt les scientifiques, avec leurs outils, accélérateurs de particules, ou grands télescopes. Mais c'est vraiment la question de base. Qu'est-ce que la réalité, et quel rapport avons-nous avec la réalité? Ce sont les deux questions centrales de la philosophie et des sciences, à mon avis, hein. Alors c'est vrai que par un curieux retour en arrière, on va dire que les physiciens les plus avant-gardistes, hein, bon, commencent à penser que l'idée de Platon, selon laquelle bon la réalité que l'on perçoit n'est pas la vraie réalité, c'est-à-dire que bon, si vous vous souvenez du mythe de la caverne, hein, en fait il y avait des prisonniers qui étaient alignés devant les parois de la caverne. Une caverne, et il voyait des ombres s'agiter sur cette paroi, et il pensait que ces ombres étaient la réalité. En fait, non, la réalité était tout autre. Et cette idée a perduré jusqu'à présent. Alors bien sûr, maintenant, c'est beaucoup plus sophistiqué, hein, c'est présenté de façon scientifique, mais l'idée reste la même, c'est-à-dire que ce que l'on perçoit serait une espèce de réalité écran, hein, peut-être généré, alors... par un super ordinateur quantique universel, enfin je sais pas, et en fait la vraie réalité serait d'une autre nature. Alors il y a une conférence qui a été donnée par Jacques Vallée justement en Belgique et qui exposait les prémices de cette nouvelle vision de la réalité en disant que jusqu'à présent la physique a surtout été une physique qui étudiait la matière et l'énergie, et qu'il fallait que les physiciens commencent à s'intéresser à une nouvelle forme de physique qui étudierait non plus seulement la matière et l'énergie, mais l'énergie et l'information. Comme si l'énergie et l'information étaient les deux faces d'une même pièce, et que l'information constituait en quelque sorte vraiment la base de la réalité, vraiment les fondements ultimes de la réalité. Voilà. Comme disait Philippe Guillemant, lorsqu'on l'avait invité à Lyon, qu'est-ce que l'information? L'information, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout enlevé. C'est-à-dire que lorsqu'on a enlevé l'énergie, lorsqu'on a enlevé la matière, il reste quoi? Eh bien, il reste l'information. Alors, quelle est la nature de cette information? Comment l'information crée-t-elle l'univers? Quel rapport avons-nous avec cette information? Voilà les questions auxquelles nous sommes confrontés. Ouais. Et à l'intérieur de ce modèle, on essaye d'intégrer justement notre vision de l'ufologie. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce modèle, en fait, il est pas seulement, il permet pas seulement d'expliquer, enfin de tenter d'expliquer le phénomène OVNI, mais on peut aussi imaginer qu'on pourrait expliquer d'autres phénomènes qui pour le moment reste complètement incompréhensible. Ouais. Bon, comme les expériences de mort imminente, par exemple, ou alors tous les effets physiques liés au mysticisme, qui sont bien réels, qui ont été bien mis en évidence, et qui défient les lois de la physique. Ouais. Donc à l'intérieur de ce modèle de l'information, on pourrait expliquer un grand nombre de phénomènes qui, pour le moment, restent complètement inexplicables.
Donc, est-ce qu'on peut dire que ce nouveau modèle permet à la science et à la spiritualité de dialoguer à nouveau?
Oui, alors ça c'est aussi un des thèmes, enfin ça c'est un thème qui m'est cher et qui est cher aussi aux auteurs du livre, c'est-à-dire que bon, on s'aperçoit lorsqu'on commence à introduire des notions comme l'information et la conscience, ben on s'aperçoit que ben on rejoint les traditions, c'est-à-dire ben, les traditions spirituelles, parce que bon, conscience, esprit, c'est quasiment la même chose. Et l'idée qu'il y a des niveaux de conscience dans l'univers, des niveaux de conscience à l'intérieur même de l'être humain, et que effectivement le, alors ça serait vraiment, on va dire, c'est aussi peut-être un des projets de notre livre, c'est essayer de faire que la science et la spiritualité puissent à nouveau converger. Alors bon, on n'est pas des pionniers en la matière, hein. Maintenant, on sait qu'il y a tout un courant de scientifiques qui s'intéressent de près, par exemple, à la méditation, aux expériences de mort imminente. On sait, par exemple, que Mathieu Ricard a participé à des expériences en laboratoire. On a mesuré les effets de la méditation. Enfin, voilà.
Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Mathieu Ricard, il s'agit donc d'un moine bouddhiste. Je crois qu'il s'agit même du fils ou du neveu de Jean-François Revel, un célèbre journaliste français. C'est son fils.
C'est son fils.
Voilà. Il a été conseiller du Dalai Lama, je crois, aussi.
Voilà, il est conseiller du Dalai Lama, interprète du Dalai Lama. Il a quand même été initié au bouddhisme tibétain par des grands maîtres tibétains. Il est docteur en biologie moléculaire. Donc au départ, c'est quelqu'un qui a une formation scientifique très, très sérieuse, des bases scientifiques solides. Et lui, il est l'incarnation vivante de la liaison qu'on peut établir entre la science et la spiritualité. C'est-à-dire qu'une science poussée jusqu'à ses limites ultimes rejoindrait, alors par d'autres chemins, les expériences spirituelles. On peut pas, de toute façon, bon, on a vécu jusqu'à présent dans un monde où il y avait d'un côté les scientifiques et de l'autre, on va dire, les spiritualistes. Maintenant, on s'aperçoit que cette barrière entre les deux commence à devenir extrêmement poreuse. Et je pense que d'ici quelques années ou quelques dizaines d'années, elle n'existera plus, cette barrière. C'est-à-dire que on va retrouver une espèce d'unité des connaissances humaines et qu'il n'y aura plus d'un côté la science et de l'autre côté la spiritualité, mais que les deux marcheront main dans la main. Ce qui est très bien d'ailleurs, parce que ça permettra certainement de réintroduire dans la recherche scientifique des valeurs qui avaient été jusqu'à présent évacuées, puisque la spiritualité quand même véhicule des valeurs, ce qui pourra peut-être redonner à la science, on va dire, un visage peut-être plus humain et peut-être moins luciférien, c'est-à-dire de conquête du monde et puis de mettre le monde sous sa coupe. Il y aura peut-être un respect plus grand par rapport, par exemple, à notre planète et à l'environnement. Comme disait, je crois que c'est Rabelais, une science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc voilà, il faut réintroduire de la conscience dans la recherche et de la spiritualité.
Voilà. Souhaitons
c'est aussi un enjeu de civilisation. Hein. Ouais. Ça va beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer.
Ouais. Alors Daniel, vous animez un site remarquable à propos duquel nous avons déjà échangé, mais j'aimerais y revenir pour étudier un autre sujet qui vous est cher, c'est la civilisation planétaire en cours d'émergence,
oui,
dites-vous, et qui devrait s'imposer à nous dans les années à venir. Alors, cette civilisation planétaire, quels en sont les signes?
Alors oui, effectivement, bon, il faut lire que ça repose sur une classification des civilisations qui avait été établie par des scientifiques, hein, par un Russe et puis un Américain, Kardashev et puis Dyson. Et donc ils avaient classé les civilisations en trois grandes catégories. Donc les civilisations de type 1, de type 0, parce que alors, après cette classification a été reprise par Carl Sagan qui a ajouté le type 0. Alors le type 0, c'est les civilisations qui précèdent le type 1, qui est ce qu'on appelle le type planétaire. Alors les civilisations de type 0, c'est toutes les civilisations qui sont apparues sur notre planète depuis que l'humanité existe, hein, depuis Sumer jusqu'à présent. Et nous-mêmes, là, au 21e siècle, on a encore une civilisation de type 0. Alors 0,75 ou 0,80, c'est-à-dire on passe de devenir une civilisation planétaire de type 1. Voilà. Alors une civilisation planétaire de type 1 est une civilisation qui serait capable de maîtriser toutes les énergies disponibles sur sa planète d'origine, donc qui pour nous est la Terre. Alors, on en est encore loin. Enfin, on en est encore loin. On commence à voir les signes qui émergent, qui indiquent qu'on se dirige à petits pas vers une civilisation planétaire de type 1. Alors, c'est facile à constater, puisque bon, depuis le XXe siècle, on sait que tous les problèmes ne sont plus uniquement locaux, mais deviennent globaux. on peut pas se permettre de résoudre un problème à un endroit et puis laisser les gens se débrouiller à un autre endroit. Maintenant, il faut nécessairement avoir une vision globale et planétaire des problèmes. Et le problème numéro un, par exemple, c'est le problème du réchauffement climatique, c'est le problème des ressources naturelles, mais c'est pas seulement que ça. Enfin bon, il y a plein d'autres choses qui montrent que maintenant s'impose à nous une vision planétaire. On ne peut plus penser seulement en pays, ni même en continent. On est obligé de penser en termes de civilisation humaine globale. Voilà. Je pense qu'on se dirige vers cette façon de penser, sauf si on fait de grosses bêtises, qu'on n'est pas capable de passer une espèce de seuil, parce que en fait, arriver à un niveau de civilisation planétaire de type 1, ça serait quand même passer une espèce de seuil. C'est-à-dire jusqu'à présent, on était dans les civilisations de type 0, et là, vraiment, on arriverait vers quelque chose de tout à fait nouveau pour nous. Mais ça suppose quand même de gros efforts de gestion de nos ressources, de communication, d'entente entre nous. Ça suppose vraiment un bond évolutif assez important pour nous. Ouais.
Et quand on ouvre les journaux aujourd'hui, surtout ces jours-ci, évidemment, on se dit qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Hein. D'ailleurs, vous dites qu'on sera, civilisation de type 1, pas avant 200 ans quand même. Hein.
Voilà, Carl Sagan avait tenté de mesurer. Alors bon, tout ça reste quand même assez spéculatif et hypothétique, mais c'est bien d'avoir des visions prospectives sur l'avenir. Et c'est vrai que Carl Sagan avait imaginé qu'on pourrait arriver au stade 1 d'ici 200 ans, hein, en 2200. Bon, ça pourrait être 2300.
À quoi ressemblerait une civilisation type 1 sur un plan, je sais pas moi, politique, énergétique aussi, hein, puisqu'on parlait d'énergie tout à l'heure?
Alors, vous parlez de l'actualité. Bon, en fait, l'actualité, c'est toujours, on voit toujours le mauvais côté des choses et le mauvais côté de l'humanité avec l'actualité. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours, il y aura certainement des poches de résistance avant de parvenir à cette civilisation de type 1. Cela dit, une civilisation de type 1, ça ne veut pas dire qu'il y aura normalisation et que tout le monde devra penser la même chose ou s'habiller de la même façon. On pourra préserver les particularismes locaux. Oui. Ça ne veut pas dire que chacun devra renoncer à sa culture, au contraire. Mais au-dessus des particularismes locaux et des cultures locales, il y aura une vision globale des choses et que les particularismes seront en interréaction. Voilà. Mais bon, alors, quelles seraient les caractéristiques d'une civilisation de type 1 au niveau politique?
Oui.
Déjà, il faudrait... Bon, alors, je sais que c'est pas une idée qui est... il faudrait un gouvernement mondial.
Ouais.
Alors, c'est vrai que il faut des instances internationales, bon, comme l'ONU ou des organismes de ce niveau, parce que, bon, forcément, on peut pas prendre des décisions au niveau global si on n'a pas des organismes qui représentent tous les pays et tous les continents. Instauration d'organismes capables de prendre des décisions au niveau international. Bon, ça commence déjà à être le cas. Bon, on s'aperçoit que c'est pas très efficace encore, que bon, chacun tire un petit peu la couverture à soi. Mais si on veut parvenir à une situation de type 1 effective, il faudra bien instaurer à un moment donné un gouvernement mondial. Alors je sais que l'idée de gouvernement mondial fait peur. On pense tout de suite à l'idée de nouvel ordre mondial.
Voilà, oui.
Mais oui, mais bon, alors il faut aussi comprendre que cette situation de type 1, il faudra changer vraiment les mentalités et puis ne plus penser en termes de profit ou d'exploitation des ressources naturelles pour le bénéfice de quelques-uns. Il faudra vraiment avoir une vision beaucoup plus respectueuse de l'environnement et penser à gérer raisonnablement les ressources naturelles.
Ce qui implique un changement à l'échelle des personnes aussi, une modification voilà, de j'allais dire de l'homme, des centres d'intérêt de l'être humain, il va falloir que nous aussi on change finalement pour accéder à la civilisation de
Tout à
type 1.
fait. Tout à fait. Accéder à une civilisation de type 1, c'est pas seulement. Parce que, en fait, la question qu'il faut se poser au départ, c'est la question de savoir qu'est-ce qu'une civilisation. Je pense que tout repose là-dessus, en fait. Est-ce qu'une civilisation, c'est simplement construire des routes, construire des maisons, des bâtiments publics? Alors, certes, ça c'est important, ou des monuments par exemple, hein, mais ça ce n'est que l'aspect, on va dire, extérieur, matériel d'une civilisation. En fait, une vraie civilisation, il y a aussi un aspect immatériel et même, je dirais, spirituel. Alors moi j'aime bien prendre une image et dire qu'une civilisation se déploie selon deux axes. Un axe horizontal, spatio-temporel, donc qui correspond à tout ce qu'on peut voir extérieurement d'une civilisation. Bon, pour les Égyptiens, ça peut être les grandes pyramides, les temples, etc. Mais il y a aussi dans une civilisation un axe vertical, c'est-à-dire un axe lié à la spiritualité, au niveau de conscience, hein, aux différents niveaux de conscience des représentants de cette civilisation. Et si on regarde l'histoire des grandes civilisations du passé, effectivement, que ce soit en Grèce, en Égypte, à Sumer, il y avait ces deux axes-là. À la fois un axe horizontal, matériel, et un axe vertical, spirituel. Ça marchait ensemble. C'est pour ça que ces civilisations étaient brillantes et ont construit des monuments. Et derrière, il y avait une culture. Bon, ce dont on s'aperçoit, c'est que depuis la naissance du matérialisme, hein, l'essor du matérialisme, certes, on a développé notre civilisation selon un axe horizontal, spatio-temporel, en créant des choses matérielles de plus en plus nombreuses et complexes, très sophistiquées, ce qui est très bien, mais on s'aperçoit qu'il manque cruellement à cette civilisation un axe vertical. Voilà. Cet axe vertical, bah, c'est tout simplement la spiritualité et les valeurs qu'elle véhicule. Donc, il faut essayer de réintroduire dans notre civilisation matérialiste, eh ben, cet axe vertical et toutes ces valeurs spirituelles qui ont été évacuées par la science. Voilà. Alors bon, à mon avis, c'est pas quelque chose d'impossible à réaliser, puisqu'on sent qu'il y a quand même une demande de la part des gens. On sent très bien qu'il y a un manque cruel de valeurs et de spiritualité dans nos sociétés. Pour moi, c'est clair.
Et voilà, c'était donc Daniel Robin, l'animateur du site Les Confins, auquel je vous renvoie expressément, et nous attendons aussi avec impatience la sortie de ce livre qui nous permettra de connaître la pensée de quelques grands chercheurs sur la question des ovnis, mais aussi sur la question du réel, la nature du réel, selon les dernières théories scientifiques de la physique de l'information. Dans 4 semaines, en tout cas, nous retrouvons Daniel Robin et nous continuerons d'évoquer cette épineuse question, épineuse et mystérieuse, des objets volants non identifiés. À dans 4 semaines pour une nouvelle édition des Nouvelles d'ici et d'ailleurs.
This was no